Bonjour, c'est Anne-Elisabeth. Vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Patrick Bruel, Patrick Toucourt, Émilie, Pierre, Mohamed, Mathieu et le point cuisson de 20h avec notre chef de la semaine, Vincent Favre-Félix, qui m'a chargé ce soir de casser des œufs et pas du tout pour faire une omelette.
Non, pas du tout, Babette. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, on va clarifier les œufs et après on va les cuire. En fait, on les cuit dans une huile de pépins de raisin.
Ça cuit tout seul dans de l'huile.
Tout à fait. Une huile neutre, comme ça, on les cuit pour garder le jaune coulant.
D'accord. Donc, je sépare, ça, je sais faire.
Voilà, bien séparé.
Hop, ça, c'est fastoche.
Doucement, pas casser le jaune.
Oui, bah, ça va. Dites tout de suite que je suis une brute. Alors, hop, voilà, et ça cuit là.
Non, après, on va les mettre au four pour les cuire.
Hop. Pardon,
l'huile, en fait, c'est pour garder le jaune qui reste coulant, qui ne fiche pas, et l'huile de pépins de raisin, car elle est neutre.
D'accord. Voilà. Et après, ça donnera quoi?
Après, ça va être avec du Beaufort et de l'Arabica. Un petit déjeuner d'enfance.
Un petit déjeuner de votre enfance.
Ça fait.
Mais merci, cher Vincent.
Merci à vous.
À tout à l'heure pour le dîner. Dis donc, ça papote, là. Vous gênez pas, les gars? Pendant le cuisson de 20h.
Pour regarder casser les œufs, je vois pas l'intérêt.
Casser les œufs.
Mais faites une émission parallèle. C'est quand même pas possible. Une seule question ce soir. Comment ça va, Patrick?
Casser les œufs.
Ça va fort.
Ça va pas, mais pas du tout. En vrai, ça va mieux depuis que l'album est sorti, Patrick.
Ça va bien, oui, ça fait plaisir.
Parce que vous avez travaillé, il est sorti vendredi, vous avez travaillé jusqu'à jeudi, 23h59. Vous avez rendu tout le monde fou jusqu'au dernier moment avec cet album.
Oui, on a... Là, vous parlez quoi du jour de la sortie, du live stream qu'on a fait
Jusqu'à la veille, vous avez été comme un dingue, vous avez travaillé jusqu'au dernier moment.
Ah non, vous parlez la veille de rendre sa copie à la maison 10
pour
qu'il puisse partir en fabrication.
Exactement.
Et ça, c'est vrai que c'était une nuit, deux nuits très longues pour les gens, parce que je ne rendais pas tant que j'avais terminé une des chansons qui, pour moi, est centrale dans cet album qui s'appelle « On en parle » et je voulais absolument la finir. Il me manquait une ou deux phrases et on a d'ailleurs... Un jour, je vous montrerai peut-être les images de ces dernières nuits un peu bizarres où j'essaye de à tout prix de terminer. Mais il fallait terminer cette chanson. Enfin, je voulais pas que cet album sorte sans cette chanson et voilà. Et j'en suis content.
Vous êtes un grand angoissé et le temps, l'expérience, le succès ne font rien à l'affaire.
Rien. Ben non.
Est-ce que les mots de Pierre vont faire à l'affaire?
Mais de toute façon, les mots de Pierre sont tellement agréables. Je suis toujours content d'entendre Pierre.
En l'occurrence, ce qui m'a frappé, comme toutes celles et tous ceux qui l'écoutent, c'est que jamais les textes n'ont été à ce point mis en avant, aboutis, qui s'adressent tous, toutes les chansons s'adressent à l'une, à l'autre, souvent à vous-même, et vous vouliez que les textes soient en avant. J'ai regardé toute la fiche technique, vous avez quasiment tout supervisé, tout réalisé. Et je suppose que jusqu'à la dernière minute, le mixage, cet accompagnement délicat des musiques, faisait que le texte devait être en avant. Et c'est vachement fort.
Merci. Merci beaucoup. Ouais, ça a été une exigence. Mais j'ai toujours eu l'exigence de bien faire, en tout cas. Mais là, sur les textes, oui, j'avais envie que ce soit au plus haut, en tout cas au plus fidèle de ce que pouvait être... ma pensée ou mes interrogations à ce moment-là.
On va en parler longuement. On va en parler aussi du piano-voix magnifique. Je l'ai fait 100 fois. Moi, j'ai été cueillie sur plusieurs des chansons d'album. Littéralement cueillie. On en parle longuement. Juste un mot sur la pochette. Où il y a deux Patrick pour le prix d'un. Un Patrick qui avance et un Patrick qui observe le Patrick qui avance.
Et d'ailleurs, le Patrick, si je puis me permettre, qui ne sait, je parle sous votre contrôle, qui ne s'est jamais trouvé beau. Tout ça, paraît-il, à cause de Pierre Cosso, que vous avez été préféré pour la Boom 2.
Non, c'était pas à cause de... Non.
si, tout est à cause de Pierre Cosso.
Non, c'était à la question, est-ce que vous...
Comment vous vous trouvez?
Oui, non, mais c'était pas... Ça n'a jamais été un sujet... Qu'est-ce que veut dire la beauté, au fond? Pas grand-chose. Alors, la beauté plastique, oui, en effet, là, on parle de beauté plastique, mais sinon, entre Belmondo et Delon, lequel était le plus beau? Plastiquement, Delon, évidemment, mais Belmondo, ce qui dégageait, je sais pas, donc...
Est-ce que c'est vrai qu'en sortant de la Gaumont, vous avez fait marcher, déambuler en vous demandant comment je vais faire rêver les filles.
Oui, non, parce qu'il m'avait dit ça, Pinotto et Alain Poiret à l'époque. Il m'avait dit, vous êtes formidable, vous êtes très drôle. J'étais allé en finale, en fait, de ce casting. Mais là, pour ce personnage, on a besoin de quelqu'un qui fasse rêver les filles. Je dis, ah bon, bah voilà. J'étais parti, descendu rue Madeleine Michelis à Gaumont sous la pluie, en train de marcher. Je dis, ah bon, bah comment on fait pour faire rêver?
Il semblerait que vous ayez trouvé la solution. Hein. Bon. Il semblerait. Et aujourd'hui, vous vous trouvez comment?
Aujourd'hui, je suis heureux de pouvoir vivre de mes passions et de pouvoir partager à ce point avec un public qui, en effet, est là, très là et présent depuis si longtemps.
Et qui va continuer à vous découvrir. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est le 9e album et on continue à vous découvrir, à apprendre à vous connaître et on est heureux de vous retrouver aussi dans ce 9e album. Une autre question.
Un public qui fait de drôles de cadeaux.
Mon chou, toi, je l'adore, mais... mon copain.
Oui. Le même ventre, toi et moi.
Non, je t'ai un peu.
C'est vrai que
mais vous... pourquoi vous avez ces images?
Bah, ça, vous savez très bien.
On a quelques cadeaux parfois.
Ouais, mais voyez, des hippopotames, pas mal en ce moment.
J'ai dû dire à un moment donné que j'aimais bien l'hippopotame. Et quand vous dites ça, bah, vous recevez de temps en temps des hippopotames. Maintenant, ça suffit, c'est bon, j'en ai assez d'hippopotames. Mais c'est vrai que celui-là est tellement mignon, il est presque vivant, puis m'accompagne en tournée. Donc, voilà.
J'ai choisi de mettre les images les plus importantes au début. c'est hiérarchisé.
Celles hein, qui vont bien avec une élaboration des textes.
Merci Patrick pour ce soutien indéfectible aux choix éditoriaux.
Que Patrick aime beaucoup les zèbres.
Non, parce qu'il y a eu des salières, hippopotames,
mais
des sept de table, hippopotames.
Voilà.
Ouais. Donc on arrête les hippopotames, on démarre les zèbres. Voilà, c'est la période zèbre de Patrick. Évidemment, on va parler de l'essentiel de l'album et on va le faire longuement. Cher Patrick. Non, parce que alors maintenant... Il y en a un qui avance et l'autre qui observe. C'est ça.
Non, mais la pochette, comme vous en parliez, c'est...
Oui, c'est la psychanalyse, c'est, presque.
Oui, forcément. Ce qui est intéressant, c'est pas tant ce que j'ai voulu y mettre, c'est ce que chaque personne qui regarde va interpréter pour lui-même. Qui est-on? Est-ce qu'on est celui qui avance, celui qui sort, celui qui rentre, celui qui observe, celui qui est... Voilà, c'est intéressant de que l'interprétation soit faite par ceux qui regardent plus que par moi. Moi, évidemment, les explications sont finalement pratiquement dans chaque chanson. Il y a une réponse à ce qu'est cette pochette.
Mmh. On y revient longuement, mais là, tout de suite, c'est l'œil de Pierre.
Est-ce que ce petit garçon vous dit quelque chose? Est-ce qu'il vous dit quelque chose?
Eh bien, la forme des yeux.
Ah oui, oui. On reconnaît.
Anthony Hopkins.
Eh bien voilà, c'est Anthony Hopkins, c'est vrai, le psychopathe.
C'est fou. Pourquoi j'ai
cannibale du silence des agneaux. Dracula, le médecin d'Elephant Man. C'est ce petit garçon, né au Pays de Galles, fils unique, mal dans sa peau. Il disait, j'étais un nul, un cancre, attardé, lent. Et déjà, il était plein d'un besoin de solitude qui ne le quittera jamais. C'est un extraordinaire portrait d'Anthony Hopkins que proposent dimanche soir sur Arte Clara et Julia Kupperberg, qui sont décidément de merveilleuses documentaristes de cinéma. Hannibal Lecter à nu, ce qui ne lui arrive guère.
You think of your father often though?
All the time.
Yes.
And as I get older, he's becoming me. I'm him. I remember I used to play the piano a lot. I was a little artistic. I used to play Beethoven and all that stuff, you know, and Chopin and all that. And he was a baker, and he used to ask me to come and help him in the shop, carry the cakes into the shop during school holidays. Well, I'd sort of get distracted. And I remember sitting at the top of the house where this piano was, and I remember him coming up the stairs. He said, for God's sake, he said, I asked you to take those donuts into the shop. What the hell are you doing up here? I was playing the piano. He said, what's that you're playing? And I remember him standing in the doorway, and he had flower dust in the hair and his arms, you know, really hard worker. He said, what are you playing? I said, Beethoven. He said, no wonder you went deaf.
Mais ce ne sera pas le piano, ce sera la comédie, au théâtre, puis au cinéma, quand ce Gallois filera à Hollywood.
I find that acting has been tremendously therapeutic for me. Because I think if I hadn't been an actor, I probably would have been... I don't know if I would have been slightly criminal, but I don't think I would have been a very nice human being. I don't think I would have... I think I would have eaten myself alive. And acting has saved me from that, in a way. It's helped me to touch parts of... my own personality, I suppose, of my own inner darkness.
Vous qui avez été troublé, et plus encore par le silence des agneaux, vous serez passionné d'entendre Anthony Hopkins expliquer sa démarche pour préparer son rôle dans le film de Jonathan Demme.
I didn't want to play the evil side. If you're playing a madman, if you play the madness, it's ludicrous. How do you play madness? So I opted for playing the really super sane side of him, the highly civilized section of Hannibal's mind. And then all the evil that he is there for the audience to make up for their own madness.
Good evening, Clarice.
I thought you might like your drawings back, Doctor. Just until you get your view.
How very thoughtful. Or did Jack Crawford send you for one last wheedle before you're both booted off the case?
No, I came because I wanted to.
People will say we're in love.
On ne le voit que 20 minutes, je vous le rappelle, dans ce premier épisode du Silence des agneaux, mais ces 20 minutes le projettent au sommet à 55 ans, après 30 ans de carrière. Les plus grands se l'arrachent alors, Oliver Stone, Steven Spielberg, James Ivory et Francis Ford Coppola et tant d'autres. Beaucoup de moments forts dans ce portrait, des témoignages, dont celui de Jodie Foster qui dit combien il l'effrayait, y compris sur le plateau. Et puis beaucoup d'émotions, puisque au-delà de sa pudeur et de son phrasé, vous avez vu, ultra rapide, il raconte vite et bien ce comédien britannique, Hopkins, qui repensait à son père en recevant donc ce premier Oscar.
First of all, I just before I say anything, I want to say hello to my mother. She's in Wales watching this on television with Eve and Jean and Jill and Tony. My father died 11 years ago tonight, so maybe he had something to do with this as well. And then I thought when I got up there to take the Oscar, I thought, well, now I can do some bad films, which I proceeded to do. It doesn't matter, really. I touched the ceiling of my life, I suppose.
Et le second Oscar d'Anthony Hopkins, il l'a obtenu, on s'en souvient, pour ce rôle du père, Father, dans le film exceptionnel de Florian Zeller. Hannibal Hopkins et Sir Anthony, c'est dimanche sur Arte à 22h45 ou en replay si vous êtes ce soir-là devant le foot.
Ah oui, ça donne très envie. Hein. Il y a un match vendredi ?
Je ne sais pas, en tout cas, il résume tellement bien la fonction d'acteur quand il dit deux choses très importantes. Il dit que le cinéma... Il pourrait dire que le cinéma lui a fait voyager dans la partie à la fois la plus intime de lui-même et peut-être la meilleure partie de lui-même.
Voilà.
Une révélation. Exactement. Et puis après, il explique ce qu'on explique... Le béaba de notre métier, c'est en tout cas ne pas surjouer, c'est-à-dire ne pas... Quand c'est triste, ne pas jouer triste. Quand c'est fou, ne pas jouer fou. Ne pas sucrer le sucre, en fait. Et il explique ça tout simplement. Oui, en effet, ça donne très envie. On a très envie de regarder ça. Et quel acteur.
Vendredi, 22h45.
Dimanche.
22h45 sur Arte. Merci beaucoup, Pierre. Je ne vais pas jouer la tristesse, mais je suis triste de vous laisser, Mathieu et Émilie.
On se voit demain.
Là,
j'ai sucré le sucre. Tout de suite le vu, ce qu'il ne fallait pas rater à la télévision hier.
En cette matinée de France-Australie, Balthazar a chanté. Nous voilà rassurés.
2021, une année record pour la rémunération des patrons des entreprises françaises. Ceux du CAC 40 ont reçu 7,9 millions d'euros en moyenne. Un bond historique de 52% par rapport à 2019, avant la crise.
L'accueil est chaleureux, presque intime. Dans ce centre de distribution, les 35 bénévoles ont repris du service pour une nouvelle campagne d'hiver. Produits frais, boîtes de conserve. Cela fait 21 ans que Nicole bénéficie de l'aide alimentaire des restos, essentielle pour cet allocataire du RSA.
Carlos Tavares, PDG de Stellantis, est loin devant, plus de 66 millions sur l'année, notamment grâce à un bonus jamais vu après la fusion des constructeurs automobiles PSA, Fiat et Chrysler.
Je trouve que dans l'un des pays les plus riches du monde, ça ne devrait même pas exister. Et qu'on s'occupe aussi de tous nos SDF et de tous nos migrants. Je dis, les gens ont besoin d'aide et il y a assez de richesses sur Terre pour avoir un partage.
Le thème, très drôle, les services publics. Le choc après la mort d'un agent du fisc tué chez un brocanteur dans le Pas-de-Calais. Il effectue un contrôle fiscal. L'homme s'est ensuite suicidé.
Une minute de silence à l'Assemblée nationale cet après-midi, en hommage aux fonctionnaires d'État assassinés. C'est toute la classe politique qui est en émoi.
L'affaire a choqué, comme cette longue liste de faits divers qui a fait la une de l'actualité ces derniers jours. Violence gratuite, violence sexuelle dans les grandes villes, les zones rurales. Lola, Justine, Vanessa, violée, tuée. Une femme de 70 ans dans le coma, rouée de coups sans raison à Villeurbanne. Des pompiers, des maires, des professeurs pris pour cible. Ce passage en revue de l'actualité récente conduit à s'interroger. Y a-t-il une flambée de la violence en France ?
Nestlé, Unilever, Coca-Cola, Kellogg's, PepsiCo. Aujourd'hui, une poignée de multinationales détient quasiment toutes les marques. Elles pèsent 500 milliards de dollars de chiffre d'affaires et ont pris le contrôle de nos assiettes. Ces produits ultra transformés perturbent notre flore intestinale, notre microbiote. Or, les bactéries intestinales assurent des fonctions essentielles. Non seulement elles nous aident à digérer, à fabriquer des vitamines, à éloigner les maladies, mais elles agissent aussi sur notre poids. Ce que le marketing nous cache, c'est que la malbouffe provoque l'une des maladies les plus dévastatrices qui soit, le diabète. Il tue aujourd'hui une personne toutes les 6 secondes dans le monde.
Des magistrats à terre, symbole d'une justice malade selon eux. Une fois de plus, juges et greffiers sont dans la rue. Une mobilisation qui intervient un mois après le décès d'une magistrate en pleine audience à Nanterre, foudroyée par un AVC.
Le site d'investigation Mediapart estime être victime de censure.
De censure préalable à la diffusion d'une enquête. C'est le tribunal judiciaire de Paris qui leur interdit une publication. On va rentrer dans le détail. Le contexte, d'abord, l'objet de leur enquête. Gaël Perdriau, on en a parlé ici, le maire de Saint-Étienne, soupçonné de chantage à la sextape sur un de ses adjoints.
Alors qu'il est en campagne pour la présidence de son parti, les Républicains, Éric Ciotti et son ex-épouse ont affaire à la justice. Le parquet national financier vient en effet d'ouvrir une enquête pour détournement de fonds publics, enquête qui fait suite aux révélations du canard enchaîné.
Alors aujourd'hui, Mediapart affirme détenir de nouvelles informations au sujet de Gaël Perdriau avec un nouvel enregistrement, sauf que l'avocat du maire de Saint-Étienne a réussi à faire interdire la publication sous astreinte de 10 000 euros par extrait publié.
Claude Guéant condamné à 6 mois de prison ferme pour escroquerie de frais de campagne lors des législatives de 2012. L'ancien secrétaire général de l'Élysée et ministre de l'Intérieur est également condamné à payer 30 000 euros d'amende.
Lorsqu'un juge doit venir dire si des propos n'auraient pas dû être publiés, il le dit toujours après, mais jamais préalablement.
En soi, c'est un acte judiciaire aberrant que cette censure préalable sur ce qui est clairement une information d'intérêt public.
Antoine Griezmann et...
Allez, ah, allez,
Adrien Rabiot. Oh, Giroud, oui. Oh, Giroud du pied droit. Voilà, ça fait 2 buts en 5 minutes.
On me signale que c'est la mi-temps du match. Musique.
Bienvenue sur France 5.
Et souhaitons la bienvenue à tous les de TF1 qui nous rejoignent en ce moment même. Allez, bonsoir, chers téléspectateurs de TF1.
Accélération, deuxième changement de rythme, centre de Kylian Mbappé. Giroud 51 Monsieur Giroud.
Oui, je sais Patrick, ça laisse rêveur. C'est pas le produit d'appel de l'année, mais on fait ce qu'on peut.
C'est encore jouable pour l'Arabie Saoudite. Frappant Lopez, Golasso.
Réjouissons-nous et rappelons aussitôt que les exécutions capitales viennent de reprendre au Royaume saoudien après un moratoire de quelques mois. Ces 10 derniers jours, 17 ont été décapités au sabre en Arabie saoudite.
Voilà pour le vu du jour. Patrick Bruel n'a que 30 ans quand il triomphe avec son deuxième album. Alors, regarde.
Alors, regarde. Regarde un peu. Je vais pas. Regarde un peu, tu verras tout ce qu'on peut faire si on est deux.
Ne pas se taire, quitte à se casser la voix. Évidemment 33 gratuit. Ans après, Patrick Bruel a toujours envie qu'on parle.
Oui, j'ai encore peur et je pose les questions d'hier. Celles qu'on a noyées, celles qui sont restées en l'air. On a perdu la guerre des idées, du partage. On a quitté la route, sali le paysage. On a tué les jeux des enfants, pas trop sages. Et laissé s'installer les nouveaux dieux du carnage. On bouscule, on bascule, on salit toutes les promesses. Les mensonges, les fake news, les trahisons oppressent. On en parle. On en parle. On en parle, dis-moi.
On en parle, c'est... l'une des chansons coup de poing de cet album. C'est la chanson coup de poing de cet album. Vous dites que c'est votre casser la voix, mais de 2022.
Oui, c'est un peu un casser la voix, un alors regarde. Une chanson qui s'appelait Rock'n'Roll aussi à l'époque. C'est un constat. C'est un constat. Des choses qui viennent vous secouer, vous bousculer, vous interpeller. C'est... alors, on ne va pas les citer les unes après les autres. La chanson parle d'elle-même et je trouve qu'on parle plutôt moins bien de nos chansons. Ouais. Les chansons parlent mieux que nous.
Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez commencé l'écriture en 2018
oui.
Et les inquiétudes qu'on entend dans cette chanson, elles n'ont pas été démenties, hein, celles que vous avez ressenties en 2018, malheureusement.
Oui, c'est probablement lié à cette incroyable crise d'individualisme à laquelle on assiste, à ce repli sur soi, à cette colère, à cette fracture... des gens qu'on n'entend pas, parce qu'on ne les écoute pas, suffisamment en tout cas. Il y a trop de gens qu'on laisse au bord de la route. Donc forcément, ça crée des tensions, des mouvements. Et puis il y a des discours populistes qui viennent faire leur terreau sur ce malheur, cette misère, et avec les conséquences qu'on connaît. Voilà, alors je parle de cynisme, je parle de violence, je parle de...
De régression aussi.
De régression, oui. C'est vrai, on en parlait tout à l'heure, mais il y a des mots qui sont venus comme ça. Le mot régression est venu... j'étais aux États-Unis en train de regarder la télévision, puis j'avais un crayon à côté de moi. J'ai écrit régression, j'ai cassé la mine quand j'ai vu qu'un pays dit civilisé aujourd'hui est tellement civilisé, remet en cause le droit de l'avortement. Et... comme je disais tout à l'heure, c'est une porte qui s'ouvrirait sur le droit des homosexuels, sur les droits surtout. Et donc cette régression amère qui insulte le temps. Je peux pas paraphraser, être plus précis que ça. Mais il n'y a pas que ça, dans la chanson. Il y a aussi cette urgence climatique portée par une jeunesse qui a décidé de prendre en main son destin au vrai sens du terme, parce que ce problème devient tangible. Il est là. Il est plus présent qu'il ne l'a jamais été, parce qu'il y a des faits devant nous, et puis qu'à l'orée, 2100 n'est pas loin. Finalement, 2080, 2100, j'ai une petite nièce et un petit neveu qui ont 3 ans chacun. Ils seront, je l'espère, probablement encore là. Et avec leurs, on est à un clic de cette situation où il y aura 3,7 degrés de plus sur la planète et 9 milliards, ou peut-être encore plus que 9 milliards d'habitants, avec parce qu'on parle aujourd'hui d'une crise migratoire actuelle qui n'est rien à côté de ce qu'elle deviendra. Voilà, le permafrost qui est en train de partir. Qu'est-ce qui se passe en dessous? On sait tout ce qu'il y a en dessous. Ces épidémies, ces catastrophes climatiques. Toi, donc prise de conscience aussi qui est intéressante. Et donc on peut aussi être optimiste par rapport à la, ouais. à la façon dont une jeunesse aujourd'hui interpelle tout le monde et s'empare de tous les sujets centraux de notre société. Donc moi j'ai à la fois espoir en ça.
Qui a écrit? J'ai bluffé, j'ai joué au con. C'est Patrick qui parle de Bruel. C'est la chanson J'avance, une sorte d'autoportrait ou de mea culpa.
On est remise en question.
Ouais.
J'en ai goûté des flacons sans jamais trouver l'ivresse. J'ai bluffé, j'ai joué au con en me foutant de tout le reste. Pas vu passer ma jeunesse. Pas vu passer les secondes, commis quelques maladresses, comme on a mal au monde.
J'ai cru trouver la méthode à chaque époque. J'ai fait valser les codes, ouais. J'ai glissé sur les modes. J'ai vu danser tant de peines et de refrains. Même si rien ne me retient, tant qu'il y aura tes mains.
J'avance.
J'avance.
Le refrain, on a coupé au mauvais moment.
L'énorme surprise, c'est quand on apprend qui a écrit les couplets.
Les couplets, c'est essentiellement Oshie et Mark Weld. Et quand je lis ces couplets, je trouve qu'ils sont tellement proches, tellement justes, oui. Qu'ensemble on termine la chanson, que je vais plutôt travailler sur les refrains.
Mais le gap de génération est quand même...
C'est la rencontre.
Elle a pu se mettre dans la peau de. Ouais,
c'est ça qui a été troublant. C'est la rencontre avec le talent. C'est pas d'être allé chercher jeune génération ou pas. C'est la rencontre avec le talent. C'est la rencontre avec Oshie.
Oui.
Au départ, il y a quelques temps où je lui avais témoigné l'affection par rapport à son travail, tout début. Puis on s'était croisé 2-3 fois. Et un jour, on a été amené à faire un duo ensemble en plateau sur une grosse radio, RFM, pour ne pas la citer. Et on s'est retrouvés à chanter ensemble. J'ai choisi de chanter avec elle et je lui ai dit, mais qu'elle choisisse la chanson. Et elle a choisi Amour sans censure. Et chanter avec elle Amour sans censure, la main dans la main, ce pamphlet contre l'homophobie, ça disait quelque chose. Et je savais que quelque chose allait naître de ça. Et quelques temps plus tard, elle est arrivée avec une proposition de deux chansons. Une qu'elle a écrite avec sa compagne, Gia Martinelli, qui s'appelle Dernier verre, premier café, dans lesquelles il y avait aussi beaucoup de précision par rapport à ce que je peux ressentir et ce que je peux être. Et puis le début de cette chanson avec Mark Weld.
Mark Weld qui
signe les deux chansons les plus incroyables de cet album, peut-être.
Ouais. As-tu déjà haï tout ce que tu es, rêvé d'être celui que tu ne seras jamais? Là, c'est un cran de plus dans la
mise en abîme.
La mise en abîme, exactement. Je l'ai fait 100 fois.
As-tu déjà haï tout ce que tu es, rêvé d'être celui que tu ne seras jamais? As-tu déjà maudit tous les passants qui s'aiment, priant que ce soit toi qu'un jour ses bras étreignent?
Ça, ce sont parfois les miracles des rencontres. Le travail avec Oshie m'a permis de rencontrer Mark Weld. Et puis, parce que nous avons eu une vraie connexion, à un moment donné, au cours d'une discussion, il m'a fait écouter une chanson qu'il avait écrite. Peut-être il y a quelques temps, peut-être en pensant à moi, consciemment ou inconsciemment, j'en sais rien. En tout cas, quand je lis la chanson, je trouve ça tellement proche, tellement vrai, et à la fois, est-ce que j'aurais écrit ça? Est-ce que j'aurais osé l'écrire? Est-ce que j'aurais osé le chanter? Et ça m'a rappelé mon parcours et mon voyage avec les chansons de Barbara. Parce que finalement, je me suis jamais autant livré que quand j'ai chanté les chansons de Barbara. Peut-être parce que ma pudeur n'était pas mise à l'épreuve, puisque c'était pas moi qui avais écrit les textes. Et là, je lis ce texte et je l'ai enregistré tout de suite. Et j'ai pas cherché à enjoliver, j'ai pas cherché à arranger, j'ai pas cherché à sauver mon personnage, si j'ose dire, comme on pourrait le faire en tant qu'acteur parfois. Et je me suis dit, ouais, on n'est pas parfait, on a des faiblesses, on a des failles, on a des doutes, on a parfois des pensées qui sont peut-être pas à la hauteur d'une situation. Mais on a tous ça. Et j'ai dit, c'est beau peut-être de faire ce pas en avant. Dans le parcours.
Est-ce que vous pouvez nous dire rapidement comment vos enfants, vos deux fils ont été impliqués dans la conception et la réalisation de cet album ?
Ils sont là tout de suite, dès les premières maquettes, dès les premiers textes. Ils écoutent, ils ont un avis très, très précis, très aiguisé. J'ai senti beaucoup d'admiration sur certaines chansons. Évidemment, la production... comment dire ? C'est-à-dire qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'options de production dans cet album, puisqu'on va de la chanson très traditionnelle, du piano-voix à la guitare-voix, pour une chanson qui s'appelle L'Instit, dont on va parler après. Et puis des choses plus produites. C'est parfois... pop électro, un peu lancinant, un peu hypnotique pour une chanson sur la drogue qui s'appelle J'ai la chance de pas.
Il y a aussi danse avec un côté flamenco.
Il y a danse pour moi. Alors danse pour moi, par exemple, l'implication d'un de mes fils, Léon, par exemple, sur danse pour moi est totale puisque ce sont quatre accords un matin comme ça et lui donne directement une option musicale, une direction à prendre. Et le soir même, je me retrouve en studio et je me dis tiens, à 1h30 du matin, alors qu'on avait fini de travailler avec Benjamin. Constant, je lui dis tiens, viens on essaye quelque chose. Et Benjamin a ça d'extraordinaire, c'est qu'il dit pas non, même à 2h du matin, il dit que quelque chose peut naître. Et en effet, entre 2h et 5h du matin, j'écris danse pour moi, musique, paroles, arrangements et la grande fierté de le faire écouter à Léon par la suite ou de leur faire écouter l'album. Et en effet, ils ont une approche. C'est vrai qu'ils grandissent en Californie ou en Géorgie.
Ils ont 19 et 17 ans.
19 et 17 ans, donc ils sont dans un univers où le hip-hop a une place très importante, où le son est important. Et moi, je suis baigné par ce son depuis toujours. Et la tournée précédente était déjà une grosse étape au niveau du son. Donc là, c'est vrai qu'il y a une proposition sonore travaillée, intéressante. Mais chaque chanson a trouvé son costume. Il n'y a pas d'effet de mode, il n'y a pas de tentative de faire comme ci ou comme ça. Chaque chanson a réclamé son costume. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Pousse, qui est une chanson que j'ai reprise à Romain Didier. Romain Didier, qui est un artiste extraordinaire. Et j'aime cette chanson depuis que j'ai commencé ce métier, depuis 1982-83. Cette chanson me suit, elle s'appelle Pousse, elle est importante de par ce qu'elle raconte. Et j'ai décidé de l'enregistrer dans cet album. Enfin, ça faisait des années que je voulais le faire. Et je me suis dit, tiens, on va faire un arrangement 1980. Mais 1980, c'est ce qui est à la mode aujourd'hui. Donc la référence un peu The Weeknd ou Imagine Dragon, je rentre complètement dans la chanson. Et je suis content, en tout cas, que les chansons aient trouvé leur costume.
Bon, une chanson que vous allez nous interpréter dans un instant.
Vous allez nous interpréter tout à l'heure cette fabuleuse chanson, l'Instit. C'est la 10e chanson de cet album. Je dis 10e et je précise parce qu'il y a même un cheminement dans l'album avec les titres. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Un hommage à votre maman qui était prof de français, mais pas seulement qu'à votre maman.
Institutrice,
mais pas seulement qu'à votre maman. C'est une déclaration d'amour pour tous les instituteurs et les professeurs. Il y a une fabuleuse photo qui accompagne.
C'est la photo de ma... J'étais en 7e à ce moment-là, CM2. On avait envie, avec Paul École, avec qui on avait écrit déjà Héros sur l'album précédent, on avait envie de focusser un tout petit peu plus sur des héros. Et lui avait cette idée très jolie et très forte de faire une chanson sur nos héros de la résistance. Et d'ailleurs, cette chanson donc figure dans l'album avec un texte que je lis au début de Michel Manoukian, quelques heures avant d'être fusillé. En février 44, ouais. Nous sommes à quelques mois de la fin du but de la victoire, et pourtant voilà, il offre la liberté à ceux qui vont lui survivre. Et donc pendant qu'on était sur cette chanson, je lui parlais de mon envie de mettre le focus sur l'enseignant, sur le professeur, sur l'instituteur, l'institutrice, celui ou celle qui donne les premières clés à notre enfant pour rentrer dans la société. Et puis l'importance du mot, l'importance du livre, de la lecture et des mots. En effet, les mots, symboles d'expression, liberté, démocratie, culture. Donc j'avais envie de parler de ça, de rendre hommage à ces gens qui moi, m'ont très souvent changé ma vie. J'ai eu des professeurs qui ont changé mon parcours, qui ont modifié. J'ai eu, que ce soit un professeur de musique au lycée Henri IV qui m'a aiguillé, qui a vu ce que je pouvais faire en musique alors que j'avais jamais joué d'instrument, et qui a appelé ma mère et qui l'a convoqué pour lui dire de m'inscrire au conservatoire. Il m'avait fait découvrir, en plus, il m'avait donné l'amour de la musique classique, en plus, un professeur de lettres, un professeur d'espagnol aussi, Monsieur Ferchal, au lycée Henri IV, qui a changé beaucoup de choses pour moi. Ces profs, voilà, peuvent changer une vie. Et parfois, ils peuvent aussi faire des dégâts, il faut faire très attention. Un enfant est fragile, il faut... Mais c'est, voilà, je voulais leur rendre hommage. Et je ne comprends pas, j'entendais ce que vous dites tout à l'heure, je ne comprends pas qu'on puisse agresser un professeur, comme je ne comprends pas qu'on puisse agresser un pompier, par exemple. C'est des choses qui me paraissent tellement absurdes.
Et évidemment, ça prend un sens incroyable quand on pense à Samuel Paty qui a payé de sa vie le fait d'enseigner. Encore une fois, c'est sorti le 18 novembre prochain et l'Instit, justement, c'est la chanson que vous avez choisi de nous interpréter ce soir, juste accompagnée d'une guitare.
Oui, comme elle est dans l'album, c'est, cette chanson ne voulait pas d'autre chose.
Oui, son costume, c'est
une guitare. Oui,
voix-guitare.
Je l'ai composée comme ça. Et c'est vrai que je l'ai chantée il y a pas longtemps dans une salle à Sarlat, devant peut-être 1000 personnes. Et j'ai été surpris à la fin de cette réaction de gens qui se lèvent et qui avaient presque des larmes aux yeux. Je ne comprenais pas très bien pourquoi à ce point-là. Et en effet, je pense que la référence à Samuel Paty se posait à ce moment-là, alors que j'y avais pas pensé.
On vous entend dans une seconde sur scène, Patrick. D'ici là, Zoé et Bruno, j'étais à ça.
J'étais à ça. Ah, ça te dit de te faire un resto ce soir?
Oh non, surtout pas, il y a la Mannschaft qui joue.
Hein?
Bah, c'est du foot. C'est la Coupe du Monde.
Je t'interdis de regarder ça.
Donne-moi une bonne raison.
Alors là. Ah. Bonjour.
Bonjour.
Je viens chercher le petit Zinedine Zidou.
Qui ça?
Victor, mon fils. D'habitude, c'est Benjamin, son père, qui vient le chercher, mais là...
Ah, c'est vous, l'ex?
Zoé, oui.
Comme la bagnole? Benji m'avait parlé de vous, je vous imaginais pas comme ça.
Ah oui? Vous m'imaginiez comment? Je l'ai tout de suite détesté. D'où il l'appelle Benji? Non mais n'importe quoi. Eh oh! J'ai pas fini de te raconter, là.
Hein? Ah, je sais pas si Benji vous a dit...
Benjamin.
Benjamin, mais le club a gagné un concours interrégional et tous les mômes sont invités au Qatar avec leurs parents.
Au Qatar?
Ouais, pour aller voir un match, Coupe du Monde.
Ah oui, pardon.
Donc Benji m'a donné son accord. Son môme, enfin votre môme, il est comme un dingue.
Waouh, il en a de la chance, le petit bâtard!
Maman, mais enfin, comment tu parles? Oh là là, et puis moi, on m'a pas demandé mon avis.
Alors, Benji m'a dit...
Benjamin. Oui, je sais pas ce qu'il vous a dit, mais je m'en fous. Moi, je dis non, ok? Elle vous pose pas de problème à vous, cette Coupe du Monde? Hein, c'est quoi le message qu'on envoie à nos gosses? Que tous ces esclaves qu'on construit, tous ces gros stades là, c'est pas grave? Que les climatisateurs géants, on s'en fout?
Attends, j'ai pas compris. T'as fait un scandale par conviction ou uniquement par orgueil?
Bien sûr que c'était par orgueil. Conviction, c'était par conviction, conviction.
Oui.
En tout cas, moi, j'irai pas.
Ah ben c'est Aurèle qui va être trop contente. Elle était dégoûtée que Benji l'invite pas.
Aurèle?
Aurélie, la meuf de Benjamin. Elle est géniale.
Je crois pas, non.
Votre fils, il la kiffe.
Non plus.
C'est quoi? Je la texte tout de suite pour lui dire qu'il y a une place qui s'est libérée. C'est Benji, il va être trop heureux.
C'est Benjamin qui s'appelle. Benjamin, pas Benji. Faut arrêter, là, avec Benji. Merde!
J'étais tellement dégoûtée que je suis partie en oubliant Victor. Et voilà, ça t'apprendra à avoir des convictions.
Non, on arrête avec le ballon!
Excusez-moi.
Ouais.
Vous savez quoi, j'ai réfléchi. Il faut savoir séparer l'homme du touriste. Je vais y aller, moi, au Qatar, avec Benji.
Eh ben non, Non, parce qu'en fait, j'aurais proposé avant, ils viennent de dire oui. Il n'y a que deux places par parent. Bah, en même temps, on va trop s'éclater avec Aurèle et Benji.
C'est Aurélie qu'elle s'appelle! Aurélie! Pas Aurèle! Putain!
C'est pour ça que tu voulais m'empêcher de regarder le foot? Alors, je rallume la télé, moi. Hein.
Mais enfin, tu pourrais être un peu solidaire. Oh. J'étais à ça d'aller à la Coupe du Monde au Qatar.
Encore une fois, c'est le titre du 9e album de Patrick Bruel, disponible depuis le vendredi 18 novembre. Il est ce soir sur la scène de C'est à vous, accompagné de Romain Chelminski, pour nous interpréter l'Instit. C'est à vous.
Elle enseignait les numéros et les couleurs de l'arc-en-ciel, comme autant de petits barreaux pour se construire une grande échelle. Elle leur a donné l'ABC, leur offrait des récitations à tous ces enfants mal armés en guise de petites munitions. Elle leur parlait de tous les livres, elle leur a appris toutes les lettres pour devenir des hommes libres et se fabriquer des fenêtres. Et même le dernier des cancres écoutait la chartreuse de Parme. Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Aujourd'hui je repense à elle, à toutes les vies qu'elle a changées, avec ses consonnes, ses voyelles et toutes les phrases qu'elle a semées. Je la revois à son bureau, la tête penchée sur le côté, en train de réparer leurs mots, comme on soignerait des blessés. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle avait le rêve un peu fou qu'un livre peut changer une vie. Et qu'il n'y a de voyous que des gens qui n'ont rien appris. Cette maîtresse, c'était ma mère, de l'avoir un peu partagée. Je me sens riche de sœurs et frères que je n'ai jamais rencontrés. Fleurs libres et fleurs sauvages, que la vie puisse les arroser. D'amour, de savoir et d'ouvrage, autant qu'un jardin de pensée. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut changer une vie. Elle avait ce rêve un peu fou qu'un livre peut être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Peut-être un ami. Un ami. Peut-être un ami.
Patrick Bruel, l'Institut, merci cher Romain Chaminski. Merci à tous les deux. Venez nous rejoindre le temps que j'accueille Frédéric Lenoir, philosophe spécialisé spiritualité. Un livre peut être un ami. Tous les livres que vous signez sont nos amis, cher Frédéric. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de votre dernier ouvrage, Le désir, une philosophie pour mieux vivre aux éclats. Voici Vincent Favre-Félix qui m'a appris à casser des œufs ce soir.
Bonsoir.
Je ne serai plus la même demain.
Voilà.
Des œufs pour en faire quoi exactement ?
Alors donc on a fait un retour de petit déjeuner d'enfance. Donc c'est, vous avez de l'arabica, de l'œuf et du beaufort. N'hésitez pas avec votre cuillère à bien aller au fond du bol pour avoir tous les mélanges de textures et percer le jaune pour avoir une meilleure dégustation.
Merci beaucoup.
Merci
cher
à vous.
Vincent.
Merci.
À demain. C'est votre 50e livre, Frédéric. Je me suis pas trompé.
Je ne sais pas.
Bah, c'est ce que, selon nos informations. Ah oui, on est du genre à avoir des informations.
Moi je compte pas, vous savez donc.
Vous nous proposez une immersion dans le désir, un désir qui peut être sacré, sacré et un sacré piège. Pour l'homme, vous citez notamment Georges Bernard Shaw, qui dit « Il y a deux tragédies dans la vie. L'un est de ne pas obtenir ce que l'on désire ardemment, l'autre est de l'obtenir. »
Et oui,
c'est
dit avec beaucoup d'humour, mais c'est parce qu'effectivement, nos désirs, lorsqu'on désire quelque chose, on veut absolument l'obtenir, et puis des fois qu'on l'obtient, on finit par s'ennuyer, puis on désire encore autre chose. Et ce qui fait
c'est
que
le drame de la société de consommation.
Oui, mais pas que. L'être humain est un perpétuel insatisfait, parce que déjà les Grecs, avant la société de consommation, nous disaient ce qui rend l'homme humain, l'être humain malheureux, c'est qu'en fait, il ne se satisfait jamais de ce qu'il a. Il veut toujours autre chose. Alors aujourd'hui, c'est encore pire. Parce qu'effectivement, la société de consommation est entièrement construite là-dessus. C'est-à-dire sur la frustration, sur le fait qu'on veut autre chose. Et d'ailleurs, je cite dans un chapitre des économistes comme Galbraith, qui nous disent dans les années 60, en fait, tout a été fait pour créer des nouveaux besoins. Ce n'est pas les entreprises ne sont pas là pour répondre aux besoins des humains. On construit des besoins, on crée des nouveaux besoins. Et par la publicité, on nous fait croire qu'on a absolument besoin de quelque chose dont on a très bien pu se passer pendant très longtemps.
Et en particulier, on veut plus que notre voisin. Quoi. Il y a
alors
en plus
ça,
ce
c'est le gros
là.
Problème. C'est qu'effectivement, ouais. Notre striatum, le cerveau primaire, est fait pour nous amener quatre choses. On recherche spontanément du sexe, de la nourriture, de l'information et du statut social. Et ce qui pose problème, c'est le dernier point. Puisque nous nous comparons...
Oui, vous mettez en dernier, mais qui, à mon avis, est en premier.
Est en premier. C'est que c'est la quête profonde de l'être humain d'être reconnu, d'avoir un statut social. Et du coup, on se compare toujours. Ce qui fait qu'on est perpétuellement insatisfait, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a mieux réussi que nous, qui a une plus grosse voiture, qui a une plus belle montre, etc. Et donc, tout le consumérisme est basé là-dessus. Et la pub, c'est toujours ça. C'est vous avez ça, mais votre voisin a mieux. Et donc, la comparaison sociale, c'est le moteur du consumérisme.
Et les crises qu'on traverse actuellement, elles exacerbent
considérablement
ce désir, cette insatisfaction.
Alors, oui et non. C'est-à-dire qu'elles l'exacerbent parce que quand on va mal, on a envie de consommer encore plus. Donc, chaque fois que quelqu'un est un peu déprimé, il dit « je vais faire des courses, ça va mieux ». Donc, c'est un palliatif. Mais non, parce que En même temps, c'est l'occasion de réorienter ses désirs. Et moi, ce que j'essaie surtout de montrer dans ce livre, c'est que apprenons à réorienter nos désirs vers des choses qui sont de l'ordre de l'être et pas que de l'avoir. L'avoir, ça fait du bien, on en a besoin aussi. Mais dans l'être, la créativité, la musique, l'amour, la nature, enfin, il y a plein de choses qui nous comblent. Et réorienter nos désirs vers des choses qui ne coûtent rien. La plupart du temps, on peut tous faire de la musique, on peut tous voir la nature. Ce n'est pas quelque chose d'extrêmement onéreux. Et finalement, ça permet de développer une joie profonde et qui ne crée ni frustration ni catastrophe pour la planète.
Parce ça a l'air plus facile à dire qu'à faire, pardon Frédéric.
Non, pas tant que ça.
Non.
Pas tant que ça. C'est... Je ne sais pas ce qu'on pense Patrick, mais...
Je pense qu'à un moment donné, pendant le confinement, on a eu beaucoup de ces sensations. On a eu une autre approche de soi-même, on a eu une autre approche de la vie quotidienne, on a eu une autre approche de la solitude, une autre approche de la nature, une autre approche du silence, une autre approche du temps. Et de l'élargissement du temps et peut-être un retour à certaines valeurs essentielles, mais en tout cas ça a provoqué, peut-être pas chez tout le monde parce qu'il y a des gens qui ont vécu ça évidemment de manière dramatique, mais il y a ces questionnements en effet, et comme vous dites
D'abord, ce que je voulais dire, c'est que ça me fait très plaisir.
Patrick.
Juste une petite chose, ça me fait très plaisir d'abord de rencontrer Patrick Buel et puis d'écouter ce morceau que je trouve magnifique. Parce que pour un écrivain, la plus belle chose qu'un lecteur peut vous dire, c'est votre livre a changé ma vie. Et quand on entend ça, on se dit on a servi à quelque chose. Donc vraiment, elle est très belle cette chanson.
Merci beaucoup.
Oui, et l'album est très beau. Hein. C'est 48 minutes de plaisir. Alors là, il faut l'avoir, hein. Pardon, mais on ne peut pas être cet album, il faut l'avoir.
Oui, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Pardon.
Je ne critique pas du tout l'avoir, parce qu'on est tous dans l'avoir. Mais important de se dire que les joies les plus profondes viennent souvent de l'être et on l'oublie.
Enfin, il parle de la notion de comparative, essentiellement, et c'est celle-là qui est très problématique.
Patrick.
Le désir, ce n'est pas seulement le désir de posséder l'album de Patrick Bruel ou toute autre chose, ou le désir d'avoir mieux que son voisin, c'est le désir... immédiat, tout de suite, ce que vous illustrez par l'exemple du test du chamallow. On propose à des enfants d'avoir un bonbon tout de suite, mais s'ils attendent 3 minutes, ils en auront 2, et on sait ce que ça donne. C'est-à-dire que la plupart des enfants et des adultes préfèrent l'avoir tout de suite. On a une petite vidéo qui le montre, ça avait été réalisé en 2020, c'était un test sur les réseaux sociaux.
Hi, mommy.
Get on my feelings. Yes.
You must wait for mommy to come back, okay? Don't eat first. Okay. Ah! Oh, man! Did you wait? Yeah. Ok, you can have 3.
Oh, c'est des miracles.
Voilà, le plaisir immédiat plutôt qu'un plaisir différent. Plus grand. Plus tard. Et ça vaut pour la plupart des humains ?
Oui, il y a des tests psychologiques que je raconte qui ont été faits et qui, une grande majorité des humains, préfèrent avoir tout de suite. On a proposé, par exemple, de donner une somme d'argent tout de suite ou le double un an après. Mais l'énorme majorité des gens préfèrent tout de suite. Ils se disent, on ne sait pas ce qui va se passer. Moi, personnellement, j'avoue que j'aime bien différer les plaisirs. Par exemple, quand j'ai faim, je ne vais pas manger quelque chose avant un bon repas parce que je sais que dans 2 heures, je vais jouir encore plus d'avoir attendu.
C'est meilleur pour la santé aussi.
Sans doute. Ce n'est pas ça l'objectif. C'est plutôt de jouir plus intensément de quelque chose que j'ai attendu.
Patrick, il peut y avoir aussi la notion de la peur du manque et d'en effet se sécuriser peut-être avec moins, mais au moins c'est là. C'est...
Patrick, tous les soirs, il diffère son envie de se jeter sur le plat du chef. Hein, n'est-ce pas, Patrick?
Pas particulièrement.
Non, moi, je pense que vous continuez à lui prêter cette image qui est bien révolue, je trouve.
Le désir, une philosophie, vivre aux éclats. Et il est aussi, évidemment, question du désir sexuel. Absolument... c'est le mot le plus recherché sur Internet. Il faut qu'on conclue, mais c'est assez incroyable.
Ah oui, c'est le mot sexe sur Google, c'est numéro 1. Numéro 2, c'est les chats.
Oui, c'est ça qui est incroyable.
C'est le sexe et les chats, qui sont la passion la plus partagée des humains. Et est-ce que, mais en fait, c'est vrai qu'il y a un chapitre sur la sexualité qui montre d'ailleurs paradoxalement que beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent l'abstinence. Ils sont écrasés le culte de la performance, du porno, etc. et tout, et ils préfèrent l'abstinence. Et ça, c'était une des découvertes que j'ai fait en écrivant ce livre. Le chapitre sur la sexualité parle plutôt de
du
refus des jeunes de la sexualité. Et donc, ce que j'ai surtout voulu montrer, c'est qu'il n'y a pas que le sexe dans le désir. Parce que plein de gens, quand j'ai dit que je fais un livre sur le désir, on dit c'est un livre sur la sexualité.
Mais pas du tout.
Un chapitre sur 17. Tout le reste, c'est plein de choses qui nous rendent heureux à travers tous nos désirs.
Le désir, une philosophie, c'est sorti le 9 novembre prochain. Merci beaucoup à tous les deux.
Dernier.
On conclut cette émission. Oui, on conclut cette émission par les actualités de Bertrand. Oui, merci Patrick.
Bonsoir à la une de ce 23 novembre, un décompte. Demain, nous serons à un mois pile de... Réveillon de Noël. À cette heure-ci, vous serez en train de vous gueuler dessus en famille. Vous avez déjà un peu commencé à parler politique et complot entre Deblini et Otarama. Et pour moi, c'est un peu Noël avant l'heure. Puisqu'aujourd'hui, j'ai reçu mon cadeau, mon totem d'immunité, puisque France Info nous apprend que la justice a tranché un salarié ne peut pas être licencié parce qu'il n'est pas assez drôle. C'est une excellente nouvelle, même si ma chronique est nullissime, je suis invirable. Noël toujours, les fêtes auront un goût particulier cette année en raison de l'inflation, mais ce n'est pas une raison pour ne pas se faire plaisir. Cette année pour les fêtes, offrez à vos bambins le cadeau le plus raffiné du moment.
Tiens, joyeux Noël mon petit bonhomme.
Oh c'est quoi? C'est le dernier One Piece?
Non, plus prestigieux Timéo.
C'est mes nouvelles baskets.
Non, plus luxueux Timéo.
Ne dis pas que... Oh non, c'est pas vrai.
Si Timéo.
Un passe Navigo des années? Mais t'es fou mon papa.
Avec le Pass Navigo, découvrez la joie des incidents voyageurs, des incidents réseau, des rames bondées quotidiennement et tout ça pour seulement 90 euros par mois.
Merci Valérie Pécresse.
Pass Navigo, les cadeaux idéaux. Eh oui, le Pass Navigo coûtera désormais 90 euros par mois et c'est un beau cadeau. Voilà, je suis invirable, hein, je vous l'avais dit. Je poursuis ma liste au Père Noël. Merci, bah, je t'échangerai avec le... Wow. On verra la photo après, hein, quand même. Ça vaut son petit pesant de cacahuète. Je poursuis ma liste au Père Noël et je demande d'offrir de nouveaux micros pour l'Assemblée ou un ingé son.
Monsieur le rapporteur défavorable, monsieur le ministre défavorable également, monsieur Léaumont.
Collègue du Rassemblement... Ouh, vain Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pardonnez-moi. C'est pas moi.
Les micros sont un peu trop forts à l'Assemblée en ce moment. Assemblée où l'ambiance est toujours aussi digne de celle d'une classe de CM1, de CP. Hier, l'élève Bernalicis s'est fait tirer les oreilles en pointe par la directrice.
On m'a indiqué à plusieurs reprises que vous faisiez un live Twitch en direct de l'hémicycle. On vous a rappelé alors, donc monsieur Bernalicis, je vous demande formellement de cesser immédiatement votre intervention sur les réseaux sociaux tels que vous le faites depuis le début de la semaine.
Alors, je précise pour ceux qui ne connaissent pas, Hugo Bernalicis est député LFI. Et Twitch, c'est une plateforme de streaming où on peut proposer des vidéos en direct. Mais le petit Hugo, n'ayant pas apprécié de se faire gronder, il a décidé de jouer au sale gosse.
Monsieur Bernalicis, madame Martin, madame Obono. Oui, je ne peux pas être sur Twitch et en séance en même temps.
Non, là, je discutais avec madame Faucillon, j'étais pas sur Twitch là présentement, mais vous avez raison de signaler, encore 500 personnes nous regardent à cette heure, ils ont raison. C'est un amendement pour
Ben oui, ça veut.
Moi, j'ai jamais dit le contraire, hein, d'ailleurs.
Ah voilà, des enfants tous ensemble, et attention, clou du spectacle là, sur Twitch. Depuis l'Assemblée, Hugo et son copain ont décidé de faire une farce et de piéger toute la classe et la directrice.
On va faire un petit truc rigolo. Avec Hugo, on lance un live depuis mon bureau, avec son compte, son Twitch, pour voir ce qui se passe. Nous, notre pari, c'est que les macronistes, à un moment donné, ils vont dire « Quoi ? Vous êtes en train de diffuser en live, etc. » Alors qu'en fait, on n'est pas dans l'Assemblée nationale.
Oh, vous imaginez comment on va les... Et la prochaine fois, on va aller sonner chez Yael Braun-Pivet. Et en fait, on aura mis un pétard dans une crotte de chien. Quand elle va ouvrir, elle va marcher dessus. Pouf, oh, on va semer vivement les vacances pour tout le monde. Magnéto 9. Petit point moral. Selon les prévisions, il est dans les chaussettes de tous les Français, sauf une personne, la ministre des Sports, qui soit ne suit pas l'actu, soit vit dans un monde parallèle, mais elle sourit en permanence.
Beaucoup de plaisir, même.
Ouais.
Non, j'ai eu cette blessure de Lucas Hernandez. Derrière, j'ai trouvé une attaque étincelante. Giroud, ouais. 51 buts. C'est envoyé un petit message. Content de cette entame. On a eu un grand Mbappé hier.
Ouais.
Ce match n'est pas perdu.
Merci, Amélie de la Castellade. On parlera du mondial de rugby aussi.
Avec grand plaisir, ils sont en forme.
Vous êtes une belle personne, Thomas Soto. Parmi les raisons de son sourire, évidemment, la victoire des Bleus hier face à l'Australie. Ouvrons notre page Coupe du Monde et faisons un tour d'horizon des reportages proposés depuis 24 heures. France 2 a déniché la perle rare, une supportrice franco-australienne qui était en terrasse pour suivre le match. Un coup de chance car elle avait forcément beaucoup de choses à raconter.
Je suis moitié française et australienne, donc je m'en fiche en fait.
Ah, mais on le garde quand même, le témoignage au montage, on ne s'est pas déplacé pour rien. Vu également la jeune femme qui est passée du pessimisme le plus total à un optimisme débordant en 90 minutes.
Au début, on avait un peu peur avec le 1-0 et maintenant c'est parti, on va gagner la Coupe du Monde, c'est sûr.
Ouais. Eh ben oui, on va la gagner la Coupe du Monde, évidemment qu'on va la gagner et ça compensera, car comme le dit ce monsieur...
Oui, on n'a pas de chauffage, mais on aura la Coupe du Monde.
Voilà, tout 2022 résumé en une phrase. Babette, vous connaissez le rappeur Jules?
Oui.
C'est vrai?
Oui.
Vous connaissez son signe?
Comme ça?
Ouais, oui, ah, c'est non. Jules, ça fait les initiales.
Fils,
aperçu en arrière-plan d'un duplex, le père de famille qui voulait montrer à ses enfants qu'il est dans le coup, en imitant le signe du rappeur, sauf que...
Olivier Giroud, il en a mis deux, là, c'est exceptionnel. On espère qu'il va en mettre tous les matchs deux.
Ouais, là, c'est wool à la limite. Enfin, de son côté, CNews a cassé la tirelire en dépêchant un journaliste à Doha pour ses débriefs d'après-match qui contiennent des infos qu'on ne peut obtenir qu'en allant au Qatar.
Bonsoir Julien. Ah, oui, excusez-nous, je vais être tout à fait honnête, on changeait les piles.
Est-ce que vous avez vu un match?
Alors, je vais être tout à fait honnête avec vous, Julien. On n'a pas eu la chance d'être dans le stade ce soir.
C'est pas vrai.
Tout simplement. Problème de billets. Et donc, nous avons vu comme vous, absolument comme vous, le match à la télé.
Eh bah, ça valait le coup de l'envoyer au Qatar. Heureusement, lui est toujours au Qatar. Jacques Vendroux. Vendroux dit tout. Je teste une imitation de Pascal Praud ce soir. Qui, chaque jour sur CNews, fait des Skype passionnants avec Pascal Praud. On referme ses actualités avec un nouvel épisode des vacances de Tonton Moustache.
Ah non mais là, pourquoi vous êtes dans le noir là? Vous êtes dans le sombre là, comme si vous étiez un témoignage anonyme.
Le repas, il fait très très chaud. Hier c'était une grosse galère, même si on a gagné 4-1, on a failli attraper froid, enfin on y reviendra. Mais tout va bien.
Bon,
ça va mon petit
Ben ça va bien, et toi tonton, comment ça va?
Tout va bien en tout cas, je vous pose la chambre est belle, les repas sont agréables.
Non, tout va bien, la circulation elle est parfaite parce que c'est le seul pays au monde où il y a des autoroutes à 6 voies. Je n'avais jamais vu ça de ma vie. 6 voies.
C'est super, et bon, on se rappelle demain alors, l'info continue demain, bonne soirée.
Bravo Bertrand Chenevoix, merci cher Patrick.
Merci.
Bravo pour... Et encore merci Frédéric. Le désir une philosophie, c'est sorti le 9 novembre dernier. On se quitte, voilà. Avec votre voix et les paroles de l'Instit. Tout de suite, c'est la Grande Librairie avec Augustin Trapenard. Et si vous voulez bien, vous tournez vers Nicolas pour souhaiter une excellente soirée. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. On se retrouve demain. On se retrouve demain à 19h en direct. Gros bisous. Bonne soirée.
Et même le dernier des cancres, écoutez la chartreuse de Parme. Elle disait qu'une main tachée d'encre est une main qui ne tiendra pas d'armes. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre changer une vie. Elle leur apprenait, voyez-vous, qu'un livre peut être un ami.
Merci d'avoir écouté ce podcast de France Télévisions. Pour ne rien rater de C'est à vous en audio, vous pouvez vous abonner à tous nos podcasts sur votre plateforme d'écoute favorite dans la rubrique C'est à vous et en vidéo, le replay bien sûr, c'est sur France.tv. À très vite.